Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Semaine, la semaine prochaine, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Le Beatnik Show, la meilleure playlist de rap au Québec. Des talents locaux, des nouveautés, la crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3. Chiz.
Oh yeah, Chiz.
Pour le meilleur beat. Beatnik Showman, t'as le dit, c'est malade.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Dimanche midi à tous. Bienvenue à des Kiwi des Nerds, donc votre émission préférée, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche midi. Donc, Jérémy Thibault, comme toutes les semaines, finalement, avec deux chroniqueurs que vous connaissez encore. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouveaux ou de nouvelles chroniqueurs, chroniqueuses, mais ça veut dire aussi que l'équipe est complètement constituée. Donc, on est capable de commencer à créer des liens de fraternité, de communauté, tout cela, tout cela. Youhou. On en profite donc pour dire bonjour à François.
Hello!
Et à Maya, donc.
Salut!
Que vous connaissez déjà légèrement, mais si jamais nous avons de nouveaux auditeurs qui sont en train de nous écouter, pouvez-vous rapidement mentionner qui vous êtes?
Moi c'est François, donc je suis entre autres je travaille au Randolph donc comme animateur ludique, donc j'explique des jeux de société dans un pub ludique, donc j'aide les gens à choisir leurs jeux et à les expliquer ensuite pour qu'ils les comprennent bien. Puis sinon je travaille aussi là dans une école comme éducateur en service de garde.
Je sais pas, j'ai...
Quelqu'un de nice!
C'est ça!
Elle a tellement un long CV qu'elle ne sait plus quoi dire. Donc, Maya Fizet, t'as 12 ans?
14.
Excuse-moi. Je l'ai connue quand elle avait 12 ans. Je ne veux pas la voir grandir. Ça me fait trop mal. Actrice, aussi une de mes jeunes qui fait du Donjon Dragon. Tu joues actuellement dans une web-série.
Ouais,
je te laisse continuer.
Je joue dans la web-série Dédale et Magie présentement qui est en tournage. Et j'ai fait justement quelques séries, joué à Donjons et Dragons, c'est pas mal ça.
Superbe. Et de mon côté, donc, Jérémy Thibault, vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, alors que je viens de dire que vous me connaissiez, il faut suivre un peu, gang. je suis animateur de jeux de rôle, c'est-à-dire que je fais des parties notamment de Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, j'ai aussi créé mon propre système que je pense éventuellement commercialiser, je verrai cela en temps et lieu. Je suis aussi anciennement enseignant de cinéma. Donc, j'ai un CV qui est quand même assez garni. Je suis aussi un ancien chroniqueur à des Kiwi des Nerds à l'époque où on avait encore notre ancien animateur. Et j'ai repris l'émission donc en début d'année parce que ça me chicotait trop. Il fallait que je puisse discuter de mes passions. Il fallait que je puisse faire profiter les autres des choses que j'aime. Et parlant de faire profiter les autres, François, tu peux donc nous faire profiter d'une petite anecdote que tu vas avoir vécue cette semaine?
Oui, bien sûr. Donc... aujourd'hui, je parle de séries parce que je suis pas quelqu'un qui écoute énormément de séries. Non, j'en écoute des fois, mais tu sais, je suis pas un gros binge-watcher en général, pour utiliser mon bon français. cette semaine, il y a Sandman qui est sorti. Sandman, qui est une série que moi j'avais lue en bande dessinée puis que j'avais vraiment beaucoup aimé, fait que j'ai écouté. Puis j'ai passé les 10 épisodes en 2-3 jours. Fait que j'ai beaucoup aimé cette série-là. Je pense qu'elle est vraiment bien faite. Justement, ils ont modifié certaines choses dans l'histoire de la BD, mais tout a été fait directement avec, en travail avec Neil Gaiman, qui est l'auteur de la BD à l'origine, puis qui est un excellent auteur. Donc, toutes les modifications ont beaucoup de sens, tu sais, puis c'est vraiment, vraiment approprié. Justement, ça, même, ça a mieux connecté certaines choses, parce que, veux, veux pas, c'est pas le même médium non plus, là, la bande dessinée, puis la série télévision, en tout cas. Fait que je recommande fortement cette série sur Netflix, Sandman. Si, faut être à l'aise un peu avec l'horreur, quand même. Il y a une certaine dose d'horreur, surtout physique, là.
Ouais, ben, c'est savoir. C'est ce que je m'en allais mentionner, en fait. Ce n'est pas que catégorisé comme étant une série d'horreur, mais il est mentionné qu'il y a des éléments d'horreur.
C'est ça. C'est pas un feeling d'horreur. C'est pas comme justement de la peur où les gens sont pas capables de s'en sortir, mais il y a beaucoup d'éléments horrifiques dans le...
Ouais, ben c'est de l'horreur supernaturelle. Pour ceux qui se connaissent un petit peu en littérature, ça va faire penser notamment à The Ward Stone, donc L'apprenti épouvanteur en français, qui est de l'horreur supernaturelle, notamment. De ton côté, Maya?
De mon côté, j'ai ma mère a commencé à jouer à Civilization 6.
Ooh.
Déjà, j'ai appris qu'il y avait un 6. Moi, j'ai joué au 2. Je ne savais pas qu'il y en avait 6.
On a même eu une chronique au complet sur l'histoire de tous les jeux Civilization il y a de cela quelques semaines.
Oui. J'ai joué au 2 à 14 ans. Je trouve ça intéressant. Mais
Puis j'ai appris que dans la dernière mise à jour, il y avait des zombies.
Ah, ouais, ça, je suis pas au courant.
J'ai pas trop compris, mais ça a l'air qu'il y a des zombies dans Civilization maintenant.
Civilization a comme décidé qu'il voulait se renouveler et qu'il voulait faire en sorte que le 6 reste d'actualité parce qu'en fait, le truc avec. On a tellement de jeux vidéo maintenant en ce moment qui sont en train de sortir que garder l'attention, avoir de la rétention, faire acheter les nouveaux DLC, c'est devenu très, très, très compliqué. Civilization ont même un mode Battle Royale maintenant, en fait. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, je vais vous inviter à acheter le jeu et à aller le découvrir parce que sincèrement, le mode Battle Royale de Civilization est quand même bien fait, je peux vous dire. Oui, il y a aussi un truc, il y a une pandémie, il y a des trucs de zombies. À ce temps, on peut maintenant tellement modifier les parties dans Civilization 6 que ça n'a plus rien à voir avec le jeu de base.
Non,
sincèrement, ça ne se ressemble plus du tout. Le seul élément qu'on garde, c'est qu'on est en vue de plateau et qu'on déplace des troupes, mais ça s'arrête là.
Ouais.
Fait que t'as découvert que Civilization 6 avait une quantité de mods assez phénoménale. En tout cas, j'attends encore le moment où Civilization 6 va devenir un shooter.
C'est ça, FPS Civilization.
Ça serait fou. De mon côté, donc, j'ai décidé que j'allais tenter. Je dis bien tenter, je laisse encore ma frustration interne décider si oui ou non je vais continuer. De redonner une chance à certains jeux que je n'avais pas appréciés à l'époque. Je parle ici notamment de Dark Souls 2, Faster Than Light. Donc plein d'autres jeux dans ce style. Ce qui fait qu'en ce moment, je suis en train de me relancer là-dedans parce que je sais que la plupart de ces jeux-là sont critiquement acclamés, notamment Faster Than Light, qui je sais que tout le monde a adoré, un peu au même titre que dans l'animation japonaise. Tout le monde adore Konosuba. Tout le monde dit que Konosuba est une excellente série. J'ai de la misère, moi. Donc, j'ai décidé de laisser une nouvelle chance et d'ailleurs, ça va même être ma chronique tout à l'heure. Je vais essayer de vous parler de Faster Than Light. En ce moment, je suis en train de rejoindre Dark Souls 2. Je suis allé lire des tutoriels, des guides, pas pour savoir comment jouer à Dark Souls 2, mais pour savoir comment aimer Dark Souls 2. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus, mais je vous raconterai tout cela après la chronique de François, qui vient donc nous parler, nous avoir parlé de comment bien expliquer un jeu de société, tu viens nous parler de comment bien choisir.
C'est ça. Ben, en fait, c'est ce que j'avais parlé aussi dans la première... ma première fois que j'ai été ici, je vous avais parlé de comment choisir un jeu. Mais là, on va continuer un peu dans cette thématique-là, donc d'essayer de bien choisir les jeux, de bien garnir sa bibliothèque, tu sais, justement. On vient à un point où, tu sais, quand t'en achètes un ou deux, finalement, tu vois que n'importe quoi, la chose que tu penses qui est le plus pertinente pour toi, à un moment donné, t'es rendu avec quelques-uns, puis t'es comme, c'est quoi le prochain jeu qu'il faudrait que j'achète? Tu sais, j'ai plusieurs options que je trouve intéressantes, mais vers laquelle je devrais plus aller. Moi, la piste que je vous amène aujourd'hui, c'est d'essayer de faire votre propre système de classement de qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Donc, pas nécessairement de penser que chaque jeu individuellement est le jeu le plus important, mais qui vient garnir une partie de vos besoins, dans le fond. Et même si c'est pas le jeu le plus incroyable, mais si ça va être le jeu le plus incroyable à un moment spécifique, ben là, ça peut être intéressant, surtout quand on commence à en avoir beaucoup, justement, tu sais, de bien garnir comme ça. Donc, je vais proposer une certaine catégorisation, mais moi, ce que je vous invite, c'est de faire la vôtre, puis de qu'est-ce qui est le plus important pour vous, parce que d'une personne à l'autre, cette catégorisation-là va un petit peu changer, puis dépendant avec qui vous jouez aussi, là. Donc, là, tu sais, par exemple, moi, j'y allais en deux. J'ai deux grosses considérations de base avant d'aller dans le plus de détails, parce qu'on a les mécaniques, on a les thématiques, tout ça. Mais pour moi, ça, c'est secondaire. La première chose que je vais me questionner, c'est dans quel contexte je vais jouer à ce jeu-là. Donc, le contexte, pour moi, il y a deux aspects qui sont importants, qui est le niveau de difficulté pour les gens avec qui je suis. Parce que ça, le niveau de difficulté, ça doit être la chose la plus variable dépendant de qui qu'on est et avec qui qu'on joue. Puis le nombre de joueurs. C'est donc c'est les deux choses qui, pour moi, sont les considérations les plus importantes. Puis que c'est important d'avoir plusieurs possibilités, surtout dans les catégories, qui, dans les contextes qui vont nous arriver plus souvent. Fait que, par exemple, donc, tu sais, j'ai comme trois... les trois niveaux de complexité que je me suis mis là, tu sais, le simple, donc les jeux très simples, donc que ça sera pas compliqué à expliquer, que les gens vont pouvoir jouer sans trop se casser la tête non plus, même s'ils sont pas très habitués, tu sais, qu'ils vont pouvoir l'apprendre puis rentrer dedans puis ça va bien.
Dilemme Express notamment.
Ben c'est ça, comme Dilemme Express, c'est un exemple de jeu justement que je classerais dans cette catégorie là. Ensuite, je vois avec les jeux plus moyens à relativement complexes, donc tu sais, plus les nouveaux classiques comme les aventures du rail, mettons, ça, je le rentrerai dans cette catégorie-là. Puis finalement, les gros jeux. Donc, une des choses à considérer dans ces choses-là, c'est d'avoir la bonne quantité de jeux selon le contexte qu'on a le plus souvent. Donc là, moi, je pense aux gros jeux. J'aime beaucoup les gros jeux. Je pense à Caverna, Spirit Island, deux jeux que j'aime beaucoup. Mais c'est pas des jeux que je vais avoir souvent l'occasion de jouer. Mais avec Spirit Island, j'ai mon beau-frère qui trippe vraiment ce jeu-là, fait que chaque fois qu'on se voit, on joue à ça. Mais, mais normalement, les jeux comme ça, tu sais, c'est genre, si on en a trop dans notre bibliothèque, au finalement, ils vont servir à rien. Parce que on n'aura pas, tu sais, on en joue une fois par mois, une fois par année, ça peut arriver. Fait que pourquoi j'en aurais quatre? Alors que si j'en ai juste un, je me tannerai jamais de ce jeu-là, parce que finalement, j'y joue déjà pas souvent. Donc ça, c'est une des considérations à avoir. Si j'en ai déjà, comme dans mon cas, 3-4, mais ça me sert à rien d'aller m'acheter un nouveau gros jeu. Et je sais que j'ai encore envie de jouer à ceux-là que j'ai, fait que j'ai pas envie d'en avoir un nouveau.
Lorsque tu parles de gros jeux, est-ce que tu nous parles en termes de quantité de gens qui vont y jouer ou en termes de la durée?
Oh non, gros jeu, c'est une question très importante. Gros jeu, c'est vraiment pas la quantité de gens. En fait, c'est un jeu. À l'inverse, c'est un jeu qui, généralement, avec moins de gens, un peu malgré, des fois, ça peut être beaucoup de gens. Mais c'est plus en durée puis en complexité.
Okay.
Donc c'est un gros engagement. C'est ça. C'est le. Il faut apprendre les règles, bien comprendre, puis qui va demander une réflexion une plus grosse pendant le jeu, puis souvent ça va être des jeux qui vont durer plus longtemps. T'sais, justement, je pense à Caverna qui dit que ça dure environ une demi-heure par joueur quand on connaît le jeu. Donc ça, c'est important. Fait que ça aussi, c'est un autre détail. Chaque fois que c'est un jeu que les gens connaissent pas, on rajoute un niveau de difficulté. C'est sûr que c'est plus complexe. Donc si c'est un jeu qu'ils connaissent bien, ben, on peut le considérer comme plus facile. Mais c'est ça. Mais je pense justement à Caverna, c'est une demi-heure par joueur quand on joue bien. Fait que si on est deux, c'est une heure. Mais si on est quatre, c'est deux heures. Ça peut jouer jusqu'à sept. Mais là, jouer à sept, honnêtement, t'es intense. Là.
Ouais.
ça va être long. Mais c'est possible. C'est possible. Fait que ça, c'est ça. Donc, moi, dans mon cas, j'ai beaucoup plus de jeux qui vont être dans les catégories du plus simple puis dans le moyen relativement complexe parce que c'est deux catégories de jeux que je sais que je vais plus souvent jouer. Puis en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que j'achetais beaucoup, beaucoup de jeux dans la catégorie du moyen relativement complexe parce que c'est la catégorie que j'aime plus puis qui est quand même accessible, que je suis capable de trouver des gens pour jouer. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas assez de jeux simples parce que j'ai moins tendance à les acheter parce que j'aime moins ça un peu. Mais au final, ça fait que je me tanne encore plus vite parce que justement, si c'est une catégorie que j'aime moins, ben j'ai plus besoin de diversité.
Ouais.
Donc, c'est important de penser à ça, justement. Puis si, selon, est-ce que ça arrive souvent? Donc, tu sais, ça arrive souvent que je suis dans un contexte où que les gens veulent un jeu plus simple, ils n'ont pas envie de se casser la tête ou on est dans un groupe un peu plus gros parce que c'est ça la réalité aussi. Je parlais de nombre de joueurs tantôt. Donc, moi, j'ai divisé en trois catégories le nombre de joueurs. Il y a le 2. Le 3, 4, 5, puis le 6 et plus. Mais les jeux de 6 et plus qui sont pas simples sont rares. Puis en fait, plus t'es de joueurs anyway, puis plus c'est long. Fait que généralement, t'es mieux d'y aller avec des quoi de plus simple quand t'as plus de joueurs. Fait que tu sais, c'est toujours d'y aller, c'est ça, comme ça. Donc là, si on y va justement avec le... donc dans le simple. Donc parlons de jeux simples. Donc les jeux simples, je les redivise en deux catégories pour mes besoins. Parce que ça, c'est important aussi. Il y a plein de catégories de jeux possibles. Puis ça se peut que selon vos besoins, avec qui vous jouez, c'est pas les mêmes que vous avez besoin. Moi, j'ai divisé en social versus les autres. parce que dans le fond, tu sais, on parle de jeux de dés, de jeux de cartes, de tout ce genre de jeux-là. Pour moi, ça, c'est tout un peu la même catégorie de ça demande un certain niveau. Ben, il y a des jeux de bluff aussi, c'est juste que moi, je suis pas un fan de jeux de bluff. C'est pour ça que j'en parle pas nécessairement.
Pas mentir.
Ouais, ben, je suis pas bon là-dedans. Là. Je vais être honnête avec vous.
C'est correct, c'est une qualité.
Je suis honnête avec vous.
Il est honnête avec nous, il aime pas mentir. C'est peut-être ce qu'il veut qu'on pense.
C'est ça. Bon, peut-être c'est juste mon personnage que je me fais.
Exact.
mais c'est ça. Mais tu sais, justement, c'est la qualification qui est logique pour vous. Si vous avez un groupe qui vous aimez vraiment beaucoup les jeux de dés, ben ça se peut que pour vous, ça soit une catégorie à part, justement. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que là, moi, dans mon cas, j'ai le social. Fait que dans ce cas-là, je vais avoir des jeux comme Just One, Code Names. Donc, des jeux, mettons, où est-ce qu'on va faire deviner des choses aux autres, où est-ce qu'on va... Ben c'est ça, ben c'est beaucoup ça dans ces deux cas-là.
Ouais, ben
là,
l'objectif,
ça,
c'est de justement, faire deviner. C'est
ben, d'essayer un peu de se mettre dans la tête de l'autre puis d'essayer de comprendre la façon de penser de l'autre puis de se donner des indices qui vont nous aider. Les jeux de mime, je le rentrerai là-dedans aussi, mm-hmm. mettons.
Scattergories.
Oui, c'est ça.
Cranium.
Ouais. Fait que souvent, les...
Peut-être pas Cranium, hein?
Ben, Cranium, oui, c'était Scattergories, je me suis demandé. Parce que, mais oui, en même temps, parce que tu veux écrire des mots que les autres n'ont pas écrit, mais en même temps, t'écris tellement vite. En tout cas, peu importe. De toute façon, ça, c'est la réalité aussi dans les jeux. C'est rarement une ligne coupée au couteau. Là. Mm-hmm. Il y a souvent des jeux qui sont à la limite de plusieurs catégories. C'est plus un feeling général.
Ouais, ben exact. Le truc, c'est qu'on aime bien catégoriser parce que c'est beaucoup plus agréable pour le cerveau. Sauf que si je dis, je sais pas, par exemple, catégorie RPG, on s'entend que la catégorie RPG, c'est quand même... assez vaste.
Ben
on
non,
peut
ben
avoir
Skyrim
autant que Dark Souls, autant qu'on peut avoir quelque chose qui n'a rien à voir.
T'sais, au Randall, c'est constant, là, nous, dans les animateurs, qu'on est comme, ce jeu-là, il va dans cette catégorie-là ou dans cette catégorie-là, parce que, dans le fond, il va dans les deux. T'sais. C'est juste qu'il faut choisir où est-ce qu'on le met, ouais. Sinon, on ne le trouve plus. Mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, il faut classifier selon qu'est-ce qui est important pour nous. Fait que tu sais, moi, dans mon cas, ça, c'est une catégorie que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui aiment beaucoup ces jeux-là. Fait que c'est pour ça que, pour moi, c'est important d'avoir cette propre catégorie-là versus toutes les autres. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est rare, mettons, tu sais, je pense à Non Merci, qui est un jeu que j'aime beaucoup, Des Pirates, Love Letter. Pour moi, c'est des jeux relativement simples que j'amènerais n'importe quel de ceux-là quand on est dans ce mood-là, puis ça reviendrait au même un peu. Là. Donc, tu sais, il y a un certain niveau de réflexion, mais mm-hmm. pas. C'est ça. Mais justement, mais c'est pas trop complexe. Il y a aussi des petits calculs, ou ben, tu sais, que ça permet de jaser un peu en même temps. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Ça, c'est la catégorie simple que je trouve qui est bien importante.
À ne pas négliger.
Non, c'est ça. Puis effectivement, donc c'est ma première, c'est ça. Puis c'est ça, comme je vous ai dit tantôt, c'est une des choses que moi je me suis rendu compte qu'il m'en manquait pas mal. Puis là, je l'ai garni un peu plus. Puis selon le nombre de joueurs aussi, parce que j'ai besoin de jeux simples qui se jouent à 2, mm-hmm. qui se jouent à 3, 4, 5, qui se jouent à 6 et plus. Donc ça aussi, c'était une réalité. À un moment donné, j'étais comme, ah, ben j'ai... Puis là, en fait, là, c'est ça, dans les dernières années, c'est beaucoup ça que j'ai acheté. C'est des jeux qui se jouent à 2 joueurs parce que...
Une des réalités, notamment, c'est que... on a été confinés, ouais, ce qui faisait que la seule personne avec qui tu pouvais jouer, ben, c'était ta copine.
Et ben, c'est ça, là. Fait que là, j'avais besoin de jeux pour jouer avec mon épouse. Puis même quand on n'est pas dans un contexte pandémique, ça reste quelqu'un avec qui je suis souvent, donc je vais souvent jouer avec elle. Mais puis la réalité, c'est qu'elle travaille aussi, puis qu'après une journée de travail, ça ne tente pas de se casser la tête. Mm-hmm. C'est ça, fait qu'elle veut un jeu plus simple. Fait qu'on a besoin de jeux simples. Puis il y a beaucoup de jeux simples qui se jouent pas très bien à deux. Fait qu'il faut essayer, faut essayer d'en trouver justement selon le contexte. Moi, c'est un contexte que j'ai besoin souvent. Peut-être que vous, ça arrive que vous êtes pratiquement jamais à jouer aux jeux à deux puis que vous avez besoin de jouer à quatre. Tu sais, comme il y en a d'autres qui... Moi, j'ai un ami qui lui joue souvent des jeux tout seul. Fait que là, c'est ça. Donc là, lui, il va essayer de chercher des jeux de seul. Moi, dans la réalité, c'est ça. Je fais moins ça. Les jeux de société, j'aime ça jouer avec les autres.
Parfait. Et dans les jeux de catégorie moyenne?
Fait que les jeux de catégorie moyenne. Donc là, c'est là, je pense, que ça va être plus important qu'on va rentrer justement dans la question des mécaniques, des thématiques. Donc, c'est quoi le genre de mécanique qu'on aime? C'est quoi les thématiques qu'on aime? D'en avoir une variété. Donc moi, j'aime ça, justement, varier puis avoir plein de trucs différents. Mais ça se peut que vous ayez un trip spécifique. Donc, tu sais, vous avez envie vraiment, vous aimez beaucoup les deck building. Fait que je vais avoir principalement des jeux de deck building parce que
Alléluia.
Je sais qu'on joue à ça toutes les fins de semaine. Fait que j'en veux une variété, tu sais. Mais sinon, c'est bien de varier, justement, pour changer puis qu'on se tanne pas. Tu sais, si on a une catégorie qu'on aime beaucoup, on peut acheter beaucoup de cette catégorie-là. Mais sinon, c'est bien d'avoir justement différentes catégories pour avoir plus de changements. Fait que là, je parlais de mettons, justement, une des... indications qui est importante aussi, c'est est-ce que c'est un jeu coopératif ou compétitif?
Effectivement, ça doit être quelque chose qui est assez important parce que dépendant d'avec qui on joue, parfois on a des amis qui sont super nice mais qui deviennent très compétitifs lorsque j'en fais partie.
Puis à l'inverse, il y a des gens avec qui t'es mieux de ne pas jouer coopératif parce que ça les fâche puis ils deviennent désagréables quand tu fais pas ce qu'ils pensent que tu devrais faire. Mm-hmm. Est-ce qu'on veut jouer ensemble ou contre? Puis, il y a aussi un désavantage. Tu sais, comme mon épouse n'est pas fan des jeux coopératifs souvent parce que souvent, elle trouve que c'est trop facile, tu sais, parce qu'on est contre le jeu. Alors que quand on est un contre l'autre ou contre d'autres gens, ben là, on est contre la compétition. S'adapte, dans le fond, c'est vraiment directement l'autre. Fait que c'est plus facile de faire un niveau de difficulté qui a du bon sens dans un jeu compétitif parce que la difficulté, c'est l'autre joueur et non pas quelque chose que le créateur a inventé, a essayé de deviner dans sa tête pour qu'il s'affiche à tout le monde.
Ouais.
C'est ça, ce qui est très difficile à faire.
Ben, c'est pas simple, puis très souvent, en fait, les jeux qui vont être le mieux pour faire du joueur contre jeu, ben, ça va être rarement les jeux de société. Ça va être plus souvent, selon moi, tout ce qui va toucher aux jeux vidéo, parce qu'en fait, si tu te rends compte que la difficulté n'est pas adaptée, tu peux la patcher à distance. Une fois que le jeu de société est sorti, c'est compliqué de changer la courbe de difficulté.
C'est ça. Fait que, t'sais, ça prend un jeu, justement, dans lequel le joueur eux-mêmes, il faut déjà que tu inclus dans le jeu une possibilité d'adapter la difficulté. T'sais, comme je pense à Pandémie, qui est un excellent jeu, un des précurseurs du coopératif, que dans lequel, tu sais, dans le jeu de base, déjà, tu as plusieurs épidémies, puis dépendant du nombre d'épidémies que tu mets, ça va faire une difficulté de jeu différente. Mais tu sais, c'est pas mal la seule mécanique de difficulté qu'ils mettent. J'ai l'impression qu'ils ont sorti des extensions, justement, où là, tu as plein de niveaux de difficulté supplémentaires, parce qu'à un moment donné, quand tu joues tellement, si c'est épidémie, ça devient facile. C'est ça la réalité. Mais.
Déjà que nous, une seule, on a eu de la difficulté, on peut.
Non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme tous les jeux, c'est qu'à un moment donné, on devient habitué. Ouais. Pis...
Bon, on connaît les stratégies. Ben, il y a aussi des méta. Hein. On finit par savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon.
Ah oui,
ben
c'est ça. C'est... Des fois, tu sais, ah, ben, je ferai pas ça, je sais que je perds mon temps en faisant ça, je vais faire autre chose.
Exact.
Puis, dépendant du nombre de joueurs aussi. Parce que ça, c'est une autre affaire avec les jeux coopératifs. Dépendant du nombre de joueurs, ça va être très difficile d'adapter la difficulté. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux coopératifs que je dis, ah, ils sont plus faciles à 2 ou ah, ils sont plus faciles à 4. Parce que c'est ça, parce que t'as 2, 3, 4, même si tu montes le compte encore plus, c'est encore plus dur à calculer. Là. Fait que ça, en tout cas. Fait que là, on parle de coopératif versus compétitif. Mais ensuite, justement, les mécaniques. Donc, j'ai parlé un peu tantôt de deck building, qui est un peu le principe de on va aller chercher des nouvelles cartes. Donc, on a un paquet de cartes au départ. Chacun, on a notre paquet de cartes. Puis, on va aller chercher des nouvelles cartes en cours de partie pour améliorer notre paquet de cartes, le rendre plus intéressant. Donc, il y a plusieurs d'autres mécaniques après ça. Donc, ça, c'est une des mécaniques qui est assez courante. On a du placement d'ouvriers. On va placer nos ouvriers. On a des petits bonhommes qu'on place à différents endroits pour faire des actions, faire des choses. Je pense à des jeux, justement, il y a aussi des jeux de dés plus complexes. Donc, on peut être des fans de dés ou à l'inverse, on peut ne pas aimer ça. Parce que moi, dans mon cas, en général, j'aime mieux les jeux avec des cartes qu'avec des dés, même si c'est un hasard équivalent.
Ouais.
L'idée de je passe au travers de mes cartes puis je vais toutes les passer, mes cartes, versus je brasse un dé puis j'ai tout le temps un chiffre bas. Moi, ça m'énerve. Mais...
T'as une meilleure sensation de contrôle, effectivement.
Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Mais... Au contraire, un des jeux de dés que j'aime vraiment beaucoup, c'est Dice Forge, dans lequel tu construis toi-même ton dé en cours de partie.
Ah,
donc,
ouais.
T'achètes des nouvelles faces de dés, puis t'enlèves ta face de dé pour rajouter à la nouvelle.
Ah, oh, ça me fascine, ça.
Ouais, non, ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça, c'est... Bon, en tout cas, excusez d'en parler là, parce que c'est un jeu discontinué, fait que c'est bien dur de s'en procurer en ce moment. Mais
laisse-moi bien travailler là-dessus, mon cher. Je te le trouve d'ici la fin du mois.
Ou achète-les bientôt, c'est ça, parce que je pense que dans les prochaines années, il va être dur à trouver. Mais c'est ça. Mais ça, justement, ça, j'aime ça, parce que c'est moi qui contrôle mon hasard. T'sais, c'est moi qui décide, ouais. OK. T'sais. Puis moi, justement, je le sais, j'aime pas ça quand je pogne la face que j'aime pas. Fait que je m'arrange que j'aille un dé qui a juste des belles faces. Comme ça, je suis tout le temps content, peu importe ce quoi qui arrive.
Là, moi, en fait, ce que j'ai entendu, c'est que tu nous as donné d'informations importantes. Le jeu va être discontinué prochainement. C'est le temps de l'acheter pour s'enrichir.
Ouais, non, c'est ça.
Super.
S'il vous plaît, faites pas ça. Là.
Mais au niveau de Dice Forge, par contre, est-ce que toutes les faces, tu dois les garnir ou comment est-ce que ça fonctionne?
Dans le fond, le jeu de base, t'as déjà des. Quelque chose sur chacune de tes faces. Dans le fond, t'en as qui te font gagner de l'argent ou d'autres ressources là, qui sont pertinentes ou des points de victoire. Puis, dans le fond, c'est que l'argent va te permettre d'aller chercher des nouvelles faces pour améliorer, justement. Donc, t'enlèves, mettons, ta face de une scène pour mettre une face de trois scènes à la place ou une face de gagner une ressource plus pertinente. T'sais. Fait que t'sais, c'est ça le principe du jeu. C'est sûr que pas de visuel, c'est plus dur à bien comprendre, là, mais il est vraiment bien fait. Là.
C'est ça. Fait que c'est, j'ai envie de dire, c'est quasiment du dice building.
C'est. Ouais, ben c'est ça, mais c'est vraiment c'est du dice forging parce que dice building c'était aussi le principe de tu vas chercher des nouveaux dés là, mais tu sais c'est tout le temps ça les appellations.
Ouais, c'est jamais clair.
C'est ça, mais dice forge c'est pas mal le seul que ce concept là à ma connaissance là. Non, je pense qu'il y en avait un Lego qui a fait ça aussi.
Il doit être assez rare effectivement là, fait que c'est un bon concept. OK.
Ben c'est ça, fait que c'est de quoi d'intéressant. Puis justement, c'est ça aussi quand on commence à avoir beaucoup de jeux, d'aller chercher de quoi qu'il y ait une petite différence, donc un petit quelque chose de plus. Qui va venir être différent de ce qu'on a. Fait que pour faire un peu le topo de tout ce que je dis là, ce qui est important, c'est de faire ça. Moi, je dirais de faire votre propre classification de vos contextes, avec qui vous jouez et de c'est quoi les types de jeux que vous aimez, qui vous manquent dans le fond. Ou aussi, il y a certaines catégories que vous aimez vraiment beaucoup, vous jouez souvent, vous avez souvent ce nombre de joueurs-là, ben d'aller en chercher plus de cette catégorie-là plutôt que de l'autre catégorie, même si vous l'aimez bien gros, si vous jouez pas, ça sert à rien d'avoir des jeux que vous jouez pas.
Effectivement, mais aussi le fait de faire cette catégorisation-là, a priori, fait aussi en sorte que c'est beaucoup plus facile sur le portefeuille parce qu'effectivement, lorsqu'on achète des jeux, que ce soit vidéo, de société, peu importe, puis qu'on s'en sert jamais, ben, au final, c'est de l'argent qu'on aurait pu garder pour mettre dans autre chose. Moi, un petit exemple que j'aime bien donner, c'est lorsque tu t'abonnes à un gym, le gym coûte cher seulement si tu y vas une seule fois par mois. Parce que si l'abonnement est 20$ puis que tu y es allé 30 fois, ça t'a coûté moins $1 par fois que tu es allé.
C'est extrêmement raisonnable, c'est ça.
Exact. Si tu es allé une seule fois, ben, ça t'a coûté 20$ pour la fois que tu es allé.
C'est ça. Puis c'est souvent ça la réflexion avec les jeux, c'est ça. Combien de fois va jouer pour que ça vaille la peine de l'acheter versus son prix. T'sais.
Exact. Puis pour savoir ça, ben c'est important d'avoir le contexte, comme tu me l'as dit, effectivement. Si c'est un jeu où je peux pas jouer à moins qu'on soit 6 ou 7, puis que je sais que dans le contexte, ben je suis pas quelqu'un de très social ou j'aime pas faire des grosses soirées, ben acheter ce jeu-là, c'est un peu une perte au final.
Effectivement.
Formidable, il nous reste encore que 20 secondes avant de devoir aller à la pause. Merci pour ces explications, pour ces nouvelles informations, François aussi. Après quoi, nous allons parler notamment de End of the Fucking World en compagnie de Maya, 14 ans, ce qui est une différence d'âge importante pour l'utilisation de mots tels que le titre nous donne. On se voit après la pause.
Depuis 25 ans, nous, on est passé à autre chose.
Chez 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chis 94.3.
Je me suis permis un petit plaisir en nous mettant la musique Last Stand de Faster Than Light, qui est la musique que l'on entend lorsqu'on affronte le boss final, qui est malheureusement une musique que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion d'entendre dans mes 15 dernières parties. Ce jeu. Bref, je vous en parlerai après la chronique de Maya, qui donc va nous parler de deux livres.
Je vais surtout parler de I'm Not Okay With This, mais je vais faire un petit lien avec The End of the Fucking World parce que c'est le même auteur. L'auteur qui, c'est Charles Forsman, je sais pas trop comment on prononce son nom, mais ça va, c'est ça. Puis les deux ont eu leur adaptation Netflix. Je vais encore parler d'adaptation Netflix parce que ça adonne que c'est sur Netflix, mais je vais essayer de parler de genre...
Mais Netflix a aussi tendance à faire beaucoup plus d'adaptations que les autres plateformes de streaming
ouais,
en ce moment. Il y a AMC, c'est beaucoup des séries originales. On pense notamment à Breaking Bad ou Better Call Saul, que on a fait la série et ensuite on a fait le reste, contrairement...
Ouais, c'est ça. Ben là, je sais que Prime a ressorti quelques adaptations de comme Paper Girls et d'autres affaires de même.
Ouais, là, il commence.
Mais pour l'instant, c'est surtout Netflix, donc c'est encore Netflix. Et donc, la série I'm Not Okay With This et la BD, les événements se ressemblent quand même pas mal. Sauf que dans la BD, comme c'est justement une BD, les événements sont vraiment plus rushés et aussi plus...
Dans la BD, les éléments sont plus rushés?
Ouais, c'est ça, c'est plus...
Ça me surprend habituellement, c'est l'inverse.
Ouais, mettons comme dans la série, il faut attendre 4-5 épisodes avant qu'il se passe vraiment comme un certain événement. Mais dans... c'est compliqué, hein?
Oui, il se parlait d'une série sans divulgation.
C'est ça, ouais, effectivement. Mais il se passe un certain événement qui, d'ailleurs, change pas grand-chose dans la BD. Puis on en reparle quelques fois, mais sans plus. Mais dans la série, il me semble que ça donne quelque chose de vraiment...
Ça aboutit à plus loin,
ouais, justement. Et I'm Not Okay With This, dans la série, c'est vraiment l'univers qui a été créé autour des personnages est vraiment genre détaillé et complexe, mais dans la BD, les dessins, c'est presque genre des bonhommes allumettes. Mettons, pour donner un exemple, mais c'est des bonhommes allumettes comme stylisés, comme un peu...
C'est du minimalisme, je crois qu'on
appelle. Ouais, c'est ça. Mais pour donner un exemple avec une autre série, il y a le journal de Dégonflé. Je sais, il y avait des dessins un peu comme ça aussi. C'est un peu le même style, mais il y a moins de justement, allumettes dans le dessin.
Ouais, c'est ce qu'on appelle en fait du dessin simpliste. Là. Pour ceux qui veulent se faire une image, c'est style cartoon, du style de Frisnet, les Garfield, aussi un peu les Tintins. Je crois que dans ce cas-ci, I Am Not Okay With This, c'est quand même un petit peu plus stylisé. Il y a un petit peu plus de lignes, mais globalement, ça ressemble à ça.
Là, on parle de
l'étoile, c'est juste quelques lignes sur le chandail. Donc, c'est assez simple.
Ouais, c'est ça. Puis, dans la. La série, là, je vais devoir divulgâcher parce que c'est ça, dans la BD, c'est dit comme la quatrième page. Mais dans la BD, en gros, on apprend que la fille, elle a des pouvoirs, puis qu'elle peut faire mal. C'est genre des pouvoirs psychiques. Elle peut faire mal aux gens par leur tête. C'est comme ça que ça a été dit. Mais dans la série, je pense pas que c'est vraiment dit à un moment donné. C'est comme un peu sous-entendu qu'elle a des pouvoirs, puis c'est comme montré, mais ils disent pas spécifiquement.
Et est-ce que tu serais capable de nous donner un synopsis, justement, puisque le personnage principal semble avoir des pouvoirs un peu spéciaux? J'imagine que le synopsis en parle.
Il n'y a pas vraiment de synopsis. J'ai pas trouvé de synopsis à la BD en tant que telle. Okay. Mais comme un court résumé, en gros, c'est une fille de 15 ans qui vit une vie tout à fait normale, avec qui a sa meilleure amie et qui, accessoirement, a des pouvoirs magiques. Psychique, qui fait qu'elle est un peu moins normale. Mais elle se considère comme, genre, elle dit I'm a freak, je suis bizarre, puis.
Elle se considère comme différente parce qu'elle a ses capacités.
Parce qu'elle a ses capacités-là, puis elle sait qu'elle est bizarre parce que les gens, genre, essaient un peu de l'intimider, mais. Comme...
Elle est un peu comme elle dans la saison 4 de Stranger Things, au final.
Un peu.
Au tout début.
Ça a des ressemblances, en effet. Ils se ressemblent pas mal, mais. Ouais, c'est ça. Puis je me suis rendu compte, j'étais sûre que c'était moins important que ça, mais dans la BD, puis dans la série aussi, la marijuana est comme très importante.
Ah ouais? Dans,
ouais, ça l'aide à comme canaliser ses pouvoirs.
Fait que là, on parle pas d'une série 18 ans et moins, là.
Non. Non, pas tant. C'est pour un public averti.
OK, c'est un public averti.
Ouais, c'est ça. Parfait. Puis, ben, les personnages dans la série puis dans la BD se ressemblent comme... quand on parle justement de personnalité et compagnie. Mais ils ont eu vraiment beaucoup de liberté sur justement l'apparence, le décor, l'histoire en tant que telle, parce que les dessins sont simplifiés, l'histoire est simplifiée. On ne donne pas tant de détails sur les événements, mettons, mettons la mort de quelqu'un.
Fait que la série, au final, vient ajouter des informations complémentaires qui n'existent pas dans le livre parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas assez de
contenu. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même vraiment bien fait dans la série parce que ça rend l'histoire quand même un peu plus fluide puis plus compréhensive d'un point de vue, justement...
Pour
quand
toi,
tu l'écoutes.
Pour toi, selon tes avis personnels, est-ce que ça fait en sorte que la série... serait quasiment même plus intéressante que la BD en elle-même?
Je dirais que la BD est quand même vraiment intéressante, mais la série rend, ouais, justement, à
sublime.
Oui, c'est ça, à sublime l'histoire, puis à l'aide un peu à mieux comprendre justement ce qui se passe, parce que quand on lit juste la BD, il y a des événements qu'on est comme, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mm-hmm. Ou que c'est juste tellement sous-entendu qu'il faut relire la page pour comprendre ce qui s'est vraiment passé.
Ouais.
Non, puis veux pas, quand c'est juste un ou une auteur qui travaille tout seul à faire la BD, ou en tout cas avec un public limité, c'est pas pareil que de travailler sur une série avec beaucoup d'autres écrivains et beaucoup d'autres personnes qui vont nous aider à développer.
Exact, parce qu'on a littéralement une writer's room, on est 10 personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui savent donc comment faire une série, comment bien la construire. Aussi, il y a beaucoup d'éléments de fiction qu'on pense qui sont évidents, mais qui ne sont pas si simples que ça. On pense notamment à The Hero's Journey, qui est un format bref à 8 étapes où le personnage a une situation initiale et doit finir par vivre de grands changements. C'est des choses qu'on peut savoir, mais qui ne sont pas nécessairement acquises au niveau de l'écriture. C'est pas toujours simple à faire.
Ouais, exactement. Puis la série I'm Not Okay With This, c'est une série de 7 épisodes. Et quand j'ai vérifié, il était censé y avoir une saison 2, mais à cause de la COVID, il y a malheureusement ça a été cancellé. Il y a pas il y aura pas de saison 2. Il n'y a pas de saison 2.
C'est vrai qu'en ce moment aussi...
Il y en a beaucoup qui sont... Netflix, ils ont passé le couteau dans pas mal de...
C'est ça, ils ont quand même fait « Bon, toi, t'étais pas assez populaire, tu fais pas assez de vues, coupé. »
Ouais, effectivement. Non, Netflix coupe beaucoup dans ses séries originales et se fait racheter par d'autres plateformes de streaming des séries qu'ils possèdent déjà en ce moment. Il y a un petit retard qui est en train de se prendre au niveau de cette plateforme de streaming-là.
Ouais, c'est... par contre, justement, c'est ça, ça a été cancellé, fait que c'est un peu poche, mais... Par contre, l'autre série de l'auteur, The End of the Fucking World, qui est aussi une BD, elle a 2 saisons. Je pense qu'elle est terminée, mais je suis pas certaine.
Ça sera à vérifier.
Ça sera à vérifier, ouais. Mais dans toutes les BD de l'auteur, je sais plus si c'est comme ça aussi dans les séries, mais dans les BD de l'auteur, il y a tout le temps genre une morale un peu non dite qui dit que même si t'es comme différent, t'es pas obligé de le vivre tout seul. Mm-hmm. Parce que dans The End of the Fucking World, je pense qu'ils sont 2, puis ils se promènent, puis comme justement, les 2 sont étranges en tant que tels.
Puis justement, c'est quoi l'histoire de The End of the Fucking World? Est-ce que ça fait un parallèle avec la série que tu viens de nous parler, ou est-ce que c'est vraiment 2 histoires complètement différentes?
C'est vraiment 2 histoires complètement différentes. Il y en a une que ça parle d'une fille avec des pouvoirs surnaturels qui essaye de vivre sa vie le mieux possible, puis l'autre, c'est l'histoire d'un psychopathe avec une autre fille qui est comme « Moi, je veux me sauver. Viens avec moi, on se sauve. » Puis il sauve.
Mais effectivement, dans The End of the... Bref, on dépensera pas notre quota de mots en F cette semaine. Mais ce que je sais, parce que moi, je l'ai regardé un peu la série notamment, j'ai accroché, mais sans plus. Un truc qui est beaucoup exploré, c'est que le personnage principal, effectivement, comme tu l'as mentionné, c'est un psychopathe. C'est-à-dire qu'il a de la difficulté à ressentir des émotions qui sont pourtant acquises normalement chez l'être humain. Là, la peur, la tristesse, ce genre de choses-là. Est-ce que son développement dans la bande dessinée est différent? Parce que dans la série, on voit vraiment que le gars, il pourrait commettre 8 meurtres puis tout irait bien dans sa tête. En fait, même je pense que c'est son objectif dans la série, il veut commettre un meurtre.
Ouais. Ben dans la BD, j'ai malheureusement pas eu le temps de terminer la BD de cette série-là, mais dans les premières pages, justement, il est comme, ouais, à 12 ans, j'ai décidé que j'allais tuer 12 animaux. Je me rappelle de chacun des animaux que j'ai tués. J'en ai tué d'autres il n'y a pas longtemps. À 15 ans, je me suis mis la main dans un... Ben, dans la série, c'est une friteuse, mais dans la BD, c'est comme...
Un pot de seringue, je pense?
Non, c'est... j'ai oublié c'est quoi le nom, mais c'est dans les éviers pour les cochonneries.
Les déchiqueteurs à
les
déchets.
Déchiqueteurs à déchets. J'ai mis la main dans un déchiqueteur à déchets. Puis, ouais, fait que c'est pas mal le même développement, justement. C'est comme...
le gars, c'est un sauvage.
Faites
c'est
pas ça à la maison.
La BD est un petit peu plus violente quand même.
Ouais, effectivement, que... faites pas ça à la maison. C'est pas encouragé de mettre sa main dans
non,
une broyeuse.
Non, je recommande pas de faire ça.
Est-ce que sa cicatrice, c'est la même? Parce que dans la série, on voit quand même qu'il y a des résidus de cet événement-là.
Dans la BD, il y a genre juste la main comme gonflée, déformée. On dirait qu'il y a un doigt qui est comme une ballonne dégonflée. Je sais pas trop.
Ouais, de toute façon, c'est un dessin assez stylisé
que tu disais. C'est ça, c'est comme... Il y a pas tant de... cicatrice en tant que telle.
OK.
Mais, ouais, c'est... Il y en a une quand même.
On sent que le personnage est assez...
Oui.
Instable pour s'infliger des douleurs.
Oui, il est instable. Ils disent pas qu'il est un psychopathe dans la BD.
OK, c'est pas mentionné.
Il me semble.
Okay. Ou si c'est mentionné, c'est assez bref. Lorsque
oui,
dans
ça.
La série, c'est mis
lorsque
quand même au clair
série,
assez
c'est
rapidement.
Comme la première phrase, c'est, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais...
C'est un psychopathe.
J'ai 17 ans, je suis un psychopathe et j'ai envie de tuer quelqu'un. Mm-hmm. C'est la première phrase de la série. C'est comme...
Ouais, on c'est qu'ils ont voulu accrocher avec
c'est,
ça.
On sait que tu es psychopathe.
Ben effectivement, un autre élément qui est différent au niveau des adaptations entre un livre et une série, ben c'est que la série, ben déjà, la compétition est quand même assez phénoménale. C'est très dur de faire son choix dans les séries que tu vas regarder. Fait que généralement, ce qui se passe, c'est que tu vas regarder le premier épisode. Si le premier épisode t'a pas accroché, tu vas passer à la prochaine. Fait que ce qu'ils sont obligés de faire, ben, c'est qu'ils doivent faire des petites adaptations, dont notamment, ben, comment est-ce que je fais pour accrocher le monde, pour les garder? Ben, dès le départ, dès l'entrée de jeu, je vais te dire c'est quoi la prémisse. Fait que bon, je suis telle personne, je suis un psychopathe, mon but c'est de tuer quelqu'un. Parfait, la prémisse est installée dans la bande dessinée. Elle est déjà achetée. Que le spectateur il soit accroché ou pas par les trois premières pages, c'est pas important. Donc, on prend plus son temps pour développer. On peut prendre plus son temps en général. Je sais que dans la bande dessinée, généralement, ce qui fait accrocher le monde, ça va être la quatrième de couverture ou ça va être carrément la page couverture elle-même. Fait que dans ces temps-là, on n'a pas besoin d'adapter la manière dont on raconte l'histoire pour accrocher le public.
Ouais, c'est ça. Puis, dans la BD de I'm Not Okay With This, les événements... En gros, elle se fait donner au début un journal par genre la psy de l'école, puis elle dit « OK, tu vas écrire dans ton journal pour t'aider à te contenir parce que t'as des problèmes de colère. » Écris dans le journal. Et donc, elle écrit dans le journal, machin, et à chaque fois qu'elle écrit dans le journal, on voit, mettons, les événements. Mettons, c'est écrit... qu'est-ce que je peux dire?
Sens-toi à l'aise. Donc, si nos auditeurs à la maison, ça vous dérange de vous faire divulgacher, vous avez le droit de faire la 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 en vous bouchant les oreilles pour
bon
la prochaine
ça.
Minute.
Donc, exemple, mettons, ma meilleure amie, elle a un chum, c'est un connard. Il me fait chier, j'ai envie de le tuer. Ça va être écrit comme si elle l'écrivait dans son journal.
OK.
Puisque dans son journal. C'est très vulgaire dans le journal. Et, les dessins, ça va être comme... On va voir un peu qui est le personnage de qui on parle, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui se passe. Puis il y a des fois où est-ce qu'on va juste voir un événement.
Fait que le journal intime, au final, est utilisé comme une façon de nous raconter les pensées internes du personnage.
Ouais, exactement. Mais exemple, quand le personnage est pas là, on va... voir juste l'événement, il n'y aura pas justement le journal intime qui va dire voici ce qui s'est passé parce que le personnage n'était pas présent. Okay. Donc
on respecte quand même à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments où, parce que tu voulais aussi nous parler un peu de Charles Forsman, qui est l'auteur de ces deux bandes dessinées-là, est-ce qu'il y avait d'autres éléments dont tu voulais nous parler? Est-ce que ce sont des one-shots, c'est-à-dire des livres que quand tu l'achètes, tu lis du début à la fin, il n'y a pas de tome 2, il n'y a pas de tome 3, ou est-ce que c'est des romans fleuves?
Ouais, c'est ça, c'est des histoires, il y a un tome, une histoire, mais aussi à la base, l'auteur, c'était des petites... T'es des petites lignes 4-5...
Des scénettes.
Oui, voilà, des petites scénettes 4-5 petits... je sais plus c'est quoi, des carrés.
Oui, c'est 4-5 carrés.
4-5 carrés, avec voici ce qui se passe, fin de l'histoire, puis c'était comme publié comme ça. Okay. Puis à un certain moment donné, justement, les petites scénettes sont sorties ensemble, ils ont été mis ensemble, c'est sorti en livre. Mais à la base, justement, chaque histoire, c'était des petites scénettes.
Ah, ça s'est fait un peu ça s'est fait un peu à la formule manga dans le même style, où ce que, par exemple, si on pense à Naruto puis One Piece, nous, on est très chanceux en Occident, on a le manga complètement fait. Sauf qu'au Japon, il faut acheter donc le Shonen Jump, qui, lui, à chaque semaine, va contenir un chapitre de l'histoire. Et ensuite, une fois que tous les chapitres sont sortis, là, on commence à faire des volumes, là, on commence à faire le manga complet. C'est un hebdomadaire, au final. Ouais.
Mais est-ce que c'était sur Internet, dans le fond, au départ, la bande dessinée?
Je saurais pas dire. Je sais pas si c'était dans un journal ou sur Internet. Okay, je crois que c'était sur Internet. Aussi.
Parce qu'il y a beaucoup de BD qui commencent sur Internet.
Ouais, c'est ça, mais
ouais, ben effectivement.
C'est facile.
Je crois que c'était sur Internet à la base, mais je suis pas certaine.
C'est la meilleure façon d'aller chercher une audience puis de commencer à se faire découvrir. Là, parce que le médium du journal, ben, ça reste impressionnant de se faire publier dans un journal, mais on s'entend que c'est plus difficile d'aller chercher
un public. Il y a pas mal moins de place pour des bandes dessinées dans un journal que sur des sites Internet.
Ouais, exact.
Il y a de la place.
Je sais que l'auteur a fait d'autres livres, mais je sais pas pour les autres livres, mais ces deux livres-là sont très gore.
Ouais, on est quand même dans le graphique.
C'est ça, c'est très graphique, c'est comme...
Bonjour, je suis un psychopathe, je me suis mis la main dans une friteuse. On parle pas de papillons pis d'arc-en-ciel. Ouais, ça, c'est
les BD sont graphiques, les séries sont graphiques à un autre niveau aussi. Puis, I'm Not Okay With This, c'est plus graphique et gore dans le mode c'est des pouvoirs, puis de la violence avec les pouvoirs.
On fait exploser la tête, il y a du sang.
Oui, c'est ça. Mais l'autre série.
The End of the F-Word.
Exactement, ça va être ça. Lui, c'est plus justement du réaliste, on est plus connecté à la réalité avec ça. Donc, des fois, il y a des bouts, justement, on parle d'un pédophile, on voit... Mm-hmm. Le pédophile, on voit les images. On les voit en photo, mais on les voit. Puis c'est vraiment plus réaliste. Donc, je dirais que The End of the...
J'imagine qu'au final, Charles Frosman, il veut un peu aussi dénoncer ces choses-là se produisent, puis le fait que la société n'est pas nécessairement assez bien équipée. Donc, on en parle, mais c'est toujours avec bienveillance, dans le but d'aller chercher, quelque chose de plus. Le gore n'est pas gratuit.
Mais ça fait que I'm Not Okay With This est quand même plus simple à écouter parce qu'il y a quand même des passes d'humour, mais que l'autre série est plus, justement, gore, centrée sur le réalisme, et c'est vraiment plus compliqué à écouter.
OK. Donc, formidable. Et quant à moi, donc, on va sortir des éléments gore pour aller cette fois-ci un peu plus dans la contemplation. On va parler de Faster Than Light. Donc, un jeu que j'avais acheté il y a de cela plusieurs années, que j'avais parlé notamment à des Kiwi, des Nerds. J'en avais dit très peu de bien. Si j'avais quelqu'un parvenu à retrouver la chronique, je n'avais pas apprécié mon expérience, mais je me suis dit, écoute, j'ai grandi, j'ai maturé. Maintenant, je suis capable de comprendre des mécaniques plus complexes. Maintenant aussi, je me suis enrichi. Hein. J'ai une meilleure idée des choses que j'aime et des choses que j'aime pas. Et je suis capable de faire la différence entre je n'aime pas cette chose là à cause d'éléments subjectifs Dark Souls 2 versus je n'aime pas ces éléments-là à cause d'éléments qui sont plus objectifs ou parfois il y a des jeux qui sont juste objectivement mal faits.
Bon, c'est ça.
T'sais, au niveau de la jouabilité, que ce soit de la rejouabilité, que ce soit les graphiques, ce genre de choses-là, même si les graphiques ont tendance à moins déranger quand t'as un bon gameplay. On pense notamment à Nioh. Donc, Faster Than Light, c'est un jeu qui est développé par Sunset Games en 2012. Donc, à ce moment-là, on parle d'un petit studio là, de quelques personnes, quasiment dans leur garage, pas tout à fait, mais quasiment. Puis c'est un jeu qui est un roguelike de science-fiction dans lequel on joue un équipage qui est la Fédération. La Fédération, eux, ils possèdent une information vitale qui va permettre de mettre en déroute le vaisseau amiral rebelle. D'abord, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un roguelike. En bref, c'est un jeu où on s'attend à ce que tu meurs dans les premières parties, dans le but de devenir plus fort pour recommencer avec plus d'éléments, avec de mieux préparer au final. Fait que dans un roguelike, à moins d'être un streamer incroyable, d'avoir des capacités cognitives surhumaines, on s'attend à ce que tu meurs, ne serait-ce que quelques fois. Donc, même si on ne parvient pas à vaincre le boss final, compléter certains défis va permettre de débloquer de nouveaux vaisseaux puis de nouvelles itérations du vaisseau. Donc, on a des vaisseaux qui vont être plus concentrés sur les boucliers, on a des vaisseaux qui n'en auront pas du tout, qui vont avoir un camouflage à la place. Lorsqu'on utilise le camouflage, les tirs ennemis ne peuvent plus nous toucher, etc., etc. Donc, on varie beaucoup le gameplay de cette façon-là, même si au final, on joue toujours au même jeu. L'élément qui est le plus fascinant du jeu, c'est sa gestion de ressources. C'est le vaisseau, il y a différents systèmes qu'il faut alimenter, c'est-à-dire que les boucliers, t'as les propulseurs, t'as le camouflage, t'as aussi donc le cockpit central, tu vas avoir aussi ta réserve à oxygène, c'est-à-dire que tu vas pouvoir viser différentes parties du vaisseau. Par exemple, si ma tank à oxygène se fait abattre par un missile, ben là maintenant j'ai plus d'oxygène, mon vaisseau va commencer à se vider, fait qu'il faut que j'envoie des membres d'équipage le réparer le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment de la gestion de ressources. Ça peut faire penser notamment à Star Citizen, sauf que cette fois-ci c'est en vue du dessus et le jeu est sorti, lui. Je me permets de faire une petite boutade. Donc lors du trajet, on peut bien évidemment améliorer nos ressources, mais un bon joueur saura utiliser la fonction pause judicieusement afin de transférer l'énergie d'une ressource à une autre plutôt que de dépenser de la ferraille. La ferraille, c'est quoi? C'est l'argent du jeu. Donc, on ne veut pas la dépenser inutilement parce qu'on en a une quantité limitée et à chaque fois, ça va nous coûter quelque chose. Si on veut récupérer de la ferraille, il faut se battre contre un autre vaisseau. Pour battre le vaisseau, ben, on va perdre de la vie. Donc, c'est tout le temps une question de qu'est-ce que je gagne versus qu'est-ce que j'ai à perdre. Même chose avec les événements qu'on va avoir. Mais c'est ça en fait qui est le fun, parce qu'on sent comme un véritable capitaine de vaisseau. On doit réfléchir longuement avant de prendre une décision, parce que certains événements peuvent nous éliminer un membre d'équipage, tout simplement. Donc il y a un feu. Est-ce qu'on va aller aider les gens qui sont coincés dans le feu ou pas? Ben, si on va les aider, il y a un pourcentage de chances qu'on perde des membres d'équipage, à moins qu'on ait, par exemple, une race qui, elle, extraterrestre, est immunisée au feu, ce genre de choses-là. Mais si on les a pas, c'est tout le temps une question de risque versus récompense. Et ça peut nous faire perdre un membre d'équipage, ça peut nous faire perdre une part du vaisseau de manière quasiment définitive. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on prend du retard pour le boss final, d'où la raison pour laquelle moi j'ai de la difficulté à entendre la musique du boss final. Il veut pas! Donc la défaite est parfois provoquée par une mauvaise décision qui aura été prise 4 à 5 ennemis plus tôt. La musique que vous avez entendue tout à l'heure pendant la pause, elle est composée par Ben Prunty, qui a un Spotify. Allez écouter, ses musiques sont vraiment très très simplistes, très très minimalistes, mais ça fait la job. Tu sais, juste la musique de Faster Than Light, l'intro, moi c'est mon verre d'oreille, là, c'est-à-dire que je l'entends quasiment toutes les semaines. Des fois je m'en passerai, mais elle reste, elle vient marquer. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, d'avoir une musique qui vient nous chercher à l'intérieur, puis que lorsqu'on l'entend, on sait « Ah! Ça vient de Faster Than Light. » C'est la même chose si on entend une musique de Dark Souls, mais on est capable tout de suite de dire « Ah, cette musique-là vient de Dark Souls. »
C'est assez caractéristique pour qu'on puisse la distinguer, parce que c'est vrai qu'il y a certains jeux que c'est plus générique, mettons.
Ben, exact. Je pense notamment au jeu Tales of Berseria. Les musiques sont super le fun. Il y en a une ou deux que si tu l'entends, tu sais que ça vient de Tales of Berseria, mais sinon, c'est de la musique qui a été faite dans le but de mettre de la musique. On n'est pas sur du John Williams. Justement, John Williams, si vous entendez la musique de Jurassic Park, vous vous dites tout de suite, c'est la musique de Jurassic Park. Ah, on n'a pas besoin de se dire, ah, de quel film est-ce que ça vient? Non, t'as compris tout de suite. Donc, c'est la même chose avec les musiques de Ben Prunty. Il y a sa marque, on sait que ça vient de lui. Donc, ça se marie bien aussi avec la sensation de vide et d'infini que le jeu veut nous apporter. Parce qu'au final, le jeu, c'est un voyage galactique, c'est se déplacer dans l'espace. Mais on va noter malheureusement que l'aspect aléatoire du jeu est parfois assez frustrant. En fait, on peut tout faire à la perfection et simplement parce que notre vaisseau a 75% d'esquive, mais qu'on a été malchanceux, donc on a eu le 25% de chance manquant trois fois de suite, le vaisseau va prendre feu et tu viens de prendre du retard, t'es pas capable de réparer ce qui était en train de se briser et fin de la partie. Donc tu peux tout faire à la perfection, t'arrives au boss de fin, puis juste parce que t'as été un petit peu malchanceux, tu viens de complètement te perdre. Puis c'est la même chose pour les événements. Si on est un petit peu malchanceux, les premiers événements qu'on va avoir dans la partie, on va tomber sur des vaisseaux qui sont légèrement plus forts que nous, fait qu'on va perdre plus de vie, ou on va tomber sur des événements que quoi que tu fasses, tu vas avoir un élément négatif qui va se produire. Puis il y a d'autres parties où ça t'arrivera jamais, puis tu vas avoir de la ferraille, puis tu vas obtenir des membres d'équipage extrêmement rapidement. Puis en fait, c'est ça, je pense, qu'il y a quelques années, était venu faire en sorte que ça avait gâché mon expérience, parce que même après avoir regardé des guides, même après avoir amélioré mon expérience de jeu, même après être devenu un meilleur joueur, je ne peux pas gagner la difficulté normale, tout simplement parce que parfois le jeu s'en remet trop à la chance. Et ça, c'est quelque chose que les développeurs se sont rendu compte, parce que le jeu qu'ils ont fait tout de suite après, 6 ans plus tard, tard. tout de suite après, là, ils l'ont fait. Puis... Bref, le jeu qu'ils ont fait suite à ça, ben, c'est un jeu qui, cette fois-ci, on voit le futur. Donc, on sait tout le temps qu'est-ce que l'ennemi va faire.
Ah, fait
donc,
qu'on peut se préparer mieux.
C'est ça, fait qu'on doit se préparer de manière appropriée. Sauf que si on subit des dégâts, ben, c'est définitif. Là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une erreur, ça te coûte extrêmement cher. Mm-hmm. Sauf que c'est ça, en fait, qui vient un peu ruiner l'expérience de jeu. Parce que Faster Than Light est un excellent jeu. Le concept est original. Les musiques sont franchement mémorables. La sensation d'être un capitaine de vaisseau spatial et la diversité des vaisseaux, tous des éléments qui sont extrêmement le fun. C'est vraiment au niveau de la balance. Le jeu est trop aléatoire. Il y a trop de... Ben c'est ça, il y a même les jeux qui sont aléatoires, comme par exemple les jeux de cartes, on va passer à Hearthstone, il y a toujours une fausse RNG. Donc quand on parle d'RNG, on parle de Randomly Generated Number, on parle de, d'une fausse chance. C'est-à-dire que si par exemple le joueur va avoir un dé de 1 à 6, puis ça fait 4 fois qu'il a 1, le jeu va lui interdire d'avoir 5e fois un 1. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de mettre dans des jeux vidéo pour éviter la frustration, parce que si t'es très malchanceux, tu vas avoir 6 fois de suite un 1, ça va gâcher ton expérience, et alors que t'as tout fait comme il faut, ben t'as pas la récompense que t'es censé avoir parce que t'as bien joué. Donc ça, c'est quelque chose que les développeurs se sont rendu compte, mais qui vient malheureusement gravement limiter l'expérience Faster Than Light. Il y a aussi des vaisseaux qui sont objectivement meilleurs que d'autres. Il y a des vaisseaux que tu ne... c'est très 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 difficile de compléter le jeu à la plus haute difficulté, tout simplement parce que le vaisseau est naturellement moins fort. Puis ça, encore une fois, c'est un élément qui est dommage. Un bon roguelike, je pense notamment à Hades, peu importe l'arme, peu importe l'objet que tu vas utiliser pour démarrer ta partie, ils vont à peu près s'équivaloir. Ou s'ils ne s'équivalent pas, il va y avoir des avantages que tu vas avoir que l'autre ne possède pas, puis tu vas pouvoir t'adapter aussi en fonction du gameplay. Ici, dans Faster Than Light, il y a des vaisseaux qui sont juste meilleurs.
Ouais, ça. Ben, je mettrais un bémol là-dessus quand même, parce que c'est vrai qu'en général, c'est bien d'avoir plusieurs choix qui sont bons, mais des fois, d'avoir certains choix moins bons, ça peut être intéressant, parce que pour les joueurs qui veulent, ah, j'aimerais avoir le défi encore supplémentaire, m'a gagné avec le vaisseau poche.
Effectivement. Il y a des situations où ça peut être agréable. Je ne crois juste pas que dans ce jeu spécifique, ce soit le cas.
Okay.
Mais bref, on s'en reparlera donc la semaine prochaine, où je vais continuer de vous parler de mes expériences de jeu diverses et variées. On va parler la semaine prochaine de Dark Souls 2 et de son infâme caractéristique d'adaptabilité. Mais ça... et plus encore, donc la semaine prochaine, avec toujours plus de chroniqueurs, plus de plaisir, et merci à tous, et à la semaine prochaine.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
Frappé solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.